France Culture, Le Grand Tour, Le Grand Tour. Marie Sorbier.
Bonsoir chère Marie, où êtes-vous donc ce soir ?
Bonsoir Arnaud, je suis à Bonifacio au sud de la Corse pour la deuxième édition de la Biennale d'art contemporain d'Erenava qui se déploie jusqu'en novembre prochain dans les lieux du patrimoine abandonné de la ville. Alors imaginez, j'arrive juste pour le début de ce parcours dans une grande caserne qui siège sur les falaises blanches face à la Méditerranée, lieu imposant qui est resté fermé depuis des décennies et qui revit grâce aux œuvres et aux belles ambitions artistiques de cette Biennale.
Alors, je suis Prisca Mélier, je suis la cofondatrice de la Biennale d'Erenava, qu'on a cofondée avec Dume Marcellesi en 2022, au moment de notre première édition, qui est un projet de manifestation artistique conçu pour la Corse, et en particulier pour la ville de Bonifacio, qui nous a inspirés pour la qualité, la beauté, la rareté de son panorama à la fois naturel, culturel et historique. Et puis ces grands lieux d'architecture qui sont vacants depuis presque parfois 30 ans, parfois beaucoup plus, parfois qui n'ont jamais été ouverts au public et qu'on avait envie de valoriser avec de l'art contemporain.
Oui, c'est vrai que la première chose qui frappe quand on vient visiter cette biennale, c'est d'abord cette immense caserne. Alors, pour la décrire un peu, c'est un immense bâtiment qui était abandonné depuis des décennies et qui est aujourd'hui, grâce à la biennale, rempli, où on la parcourt avec des œuvres un peu partout. Qu'est-ce que c'est ce lieu ? Vous pourriez nous en dire deux mots ?
Bon, l'or, c'est une propriété qui appartient à la collectivité de Corse. Et cette caserne, elle fait 5000 m². Elle est immense. Elle a été quittée par les militaires à la fin des années 80. Et depuis, elle était fermée et elle n'a jamais été utilisée parce que c'est un espace qui est très compliqué à exploiter, qui est encore dans son jus, avec beaucoup d'aspérités sur les murs, avec des chambres qui contiennent encore du papier peint, effrité, laissé par les militaires. Et nous, ça nous paraissait un endroit exceptionnel pour accueillir des œuvres d'art, parce qu'on n'était pas dans l'idée de créer un white cube, quelque chose de très aseptisé. On voulait faire venir des œuvres qui ont voyagé partout dans le monde, qui ont été dans les plus grands musées, et les accueillir dans ce patrimoine tel qu'il était.
À qui elle s'adresse, cette Biennale d'art contemporain à Bonifacio ?
L'idée, c'est vraiment de créer une biennale qui puisse accueillir un très large public. On sait qu'on a souvent un public qui a une distance avec l'art contemporain, qui peut considérer comme élitiste et parfois trop conceptuel. Ce n'est pas du tout notre point de vue. Nous, on crée des parcours qui sont visitables par un public familial, tout comme un public initié qui va retrouver des œuvres plus exigeantes et donc avec des clés de lecture différentes. Donc on a un parcours assez court, puisqu'on est une biennale réduite avec 18 artistes. Alors, pour toutes nos manifestations, on cherche à puiser nos sujets dans le réservoir des grands sujets méditerranéens. La chute des empires, c'est un sujet qui est complètement atemporel, puisqu'on peut remonter aux premiers empires macédoniens ou sumériens. C'est un sujet à la fois politique, culturel, social, moral. Donc aujourd'hui, c'est une biennale qui va traiter à la fois de la nostalgie des paradis perdus, de la décadence, de la perte de l'identité et puis de tous ces idéaux qu'on construit alors qu'on sait qu'ils portent déjà en eux les graines de leur destruction.
Alors dans cette caserne au centre de la ville de Bonifacio, la biennale en fait se déploie dans toutes les salles. Alors c'est un immense lieu, hein, complètement désaffecté, complètement décrépit, avec un charme fou de ces murs qui tombent en lambeaux. Il reste des graffitis du temps des sergents, des anciennes pubs incrustées dans les murs, les papiers peints qui s'effritent. Il y a une odeur très forte puisqu'il y a une artiste juste à côté qui est en train de graffer tous les murs. Ce qui est très réussi, c'est qu'en choisissant ce thème de la chute des empires, les commissaires restent très cohérents dans le choix des œuvres, qui sont toutes très lisibles et apportent un point de vue, une compréhension différente sur la décadence, sur la chute, sur les ruines et ou sur l'émancipation d'un peuple.
Trois œuvres qui nous est prêtée par le musée Fesch. C'est un de leurs chefs-d'œuvre. puisque c'est vraiment le portrait en majesté de Napoléon. Quand Napoléon a commandé son portrait à Jacques-Louis David, il a été refusé. Napoléon a refusé le portrait, qu'il a jugé peu représentatif de sa personne. Et à partir de ce moment-là, c'est un élève de Jacques-Louis David qui est devenu le portraitiste officiel de Napoléon. Et cette pièce-là, c'est une œuvre qui est attribuée à l'atelier de Jacques-Louis David, qui n'est pas encore fermement attribuée à Jacques-Louis David lui-même, parce que justement, ce serait un second portrait, donc une seconde tentative du peintre de satisfaire l'empereur. Et là, on reprend vraiment tous les codes qui sont très intéressants chez Napoléon. C'est les régalia royales, donc la royauté française, et en même temps, le manteau d'hermine qui est pourpre et non plus bleu. Et pourquoi pourpre ? Parce que le pourpre, c'est la couleur des empereurs romains. Donc il y a aussi une volonté de se réclamer de l'Empire romain. Cette exposition, disons qu'elle peut être visitée en deux sens. C'est-à-dire le sens qu'on fait maintenant, qui est le parcours original, qui va de la décadence vers la ruine, et qui est censé représenter la chute de l'Empire qui vient de l'intérieur, c'est-à-dire une sorte de dégénérescence, de gangrène morale qui va se propager dans l'Empire, qui va l'affaiblir, qui va passer par des phases de vandalisme, héroïsme, où en fait les figures importantes qui représentent deux parties de l'Empire vont s'affronter et qui aboutit à la ruine. Et l'autre parcours, c'est si on le fait à l'envers, on part de la ruine et on arrive à la décadence. Et l'idée de ce parcours-là, c'est le parcours de la chute vue de l'extérieur, c'est-à-dire une puissance rivale qui va attaquer, ou une catastrophe naturelle, qui est quelque chose de, voilà, un peu ex machina, qui va affaiblir l'Empire par l'extérieur, traumatiser les populations et aboutir à une décadence ou l'émancipation, selon la manière dans laquelle on se voit.
Bonjour, je m'appelle Alexandre Bavard et je suis connu sous le nom de Moza dans le graffiti.
Et on vient d'entrer dans une installation ici, dans cette biennale à Bonifacio. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'on a devant les yeux, en quoi consiste ici votre travail ?
Alors, c'est une installation qui s'appelle Temps mort, qui a été une commande de la biennale et qui a été réalisée en 3 semaines, in situ. Et c'est une excavation, une visite archéologique dans laquelle le public est amené à prendre connaissance de plusieurs sculptures qui sont placées dans l'espace, avec un jaune radiant qui vient illuminer tout ce parterre, ce vestige, où l'on peut apercevoir
des bouts, des têtes, des visages.
Voilà, de différentes civilisations dans lesquelles en fait viennent s'ériger des sortes de mutants, de demi-dieux, qui viendraient en fait faire table rase d'un passé suite à une guerre. Et ils viendraient s'ériger en toute puissance avec leur propre code. On peut voir ici des paires de Yeezy, des Nike. On peut voir aussi des marques qui sont révélées. Mais ils viennent vraiment les remixer pour se donner des nouvelles armures, des nouvelles manières de s'exprimer. Et l'apparition des masques aussi vient vraiment donner en fait cette nouvelle visibilité qu'ils veulent se donner. Et l'idée, c'est d'arriver ensuite dans cette troisième pièce, on voit en fait dans une sorte de jardin zen, mais en gravat, un disco ball immaculé de blanc qui vient être tagué. Il est tagué par mon blaze, Moza, et en fait c'est une sorte de revendication et aussi une allusion à, en 1991, en fait il y a eu la station du Louvre qui a été taguée, et c'était une manière de faire un petit clin d'œil, un rappel en fait à ce moment très fort et symbolique où les taggeurs viennent s'inviter au Louvre. Et donc dans toute cette installation, il y a aussi la présence de cette collaboration que j'ai fait avec Pasqua Pancrazi, qui est un sample de Booba, de Temps mort, qu'on a repris, remixé.
C'est ce qu'on entend là derrière.
C'est ce qu'on entend, voilà. Et on a travaillé à partir de ce sample-là pour l'étirer, le travailler, pour donner une matière sonore. Et donc, il y a les fantômes légionnaires qui viennent se superposer avec les chants polyphoniques, avec Booba en Temps mort derrière, complètement étirés, autotunés. Et donc, c'est aussi quelque chose de très important pour moi, l'aspect collaboration et l'immersion sonore et même totale.
L'immersion est totale parce qu'on a parlé de la lumière, on a parlé du son, mais on est aussi dans une espèce de brume poussiéreuse.
Voilà, en fait, c'est une brume, qui est vraiment une sorte de brouillard de guerre qui vient en fait où on vient vraiment le traverser, et dans ce brouillard, on voit à quelques mètres seulement, mais on voit juste les couleurs en fait apparaître. On voit du bleu et du jaune se mélanger, devenant du violet, et en fait ce brouillard vient marquer la couleur. Et il y a aussi cet aspect cotonneux où on a vraiment un peu cette impression de comme si on avait pris de la kétamine, on se traverse à l'intérieur, et le son complètement étiré de ton mort qui vient là-dedans. Donc l'immersion physique, sensorielle est super importante.
Ouais, il marche très bien. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Suite du Grand Tour demain, Marie Sorbier, où serez-vous ?
Demain, Arnaud, suite de la visite de Bonifacio.
Merci Marie et à demain.